Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé-Just et cette semaine, je serai accompagné par l'ancien receveur de passe des Alouettes, Danny Desriveaux. En compagnie de Danny, bien sûr, on va mettre la table pour la demi-finale de l'Est qui aura lieu dimanche entre les Alouettes et les Eskimos d'Edmonton. Et d'ailleurs, on a un joueur des Eskimos qui va nous rejoindre au téléphone. Il s'agit de l'ailier défensif Mathieu Betts. Alors, on va mettre la table pour la demi-finale de l'Est, la demi-finale de l'Ouest. Et bien sûr, on va revenir sur la 9e semaine d'activité dans la NFL où on a vu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre encaissaient un premier revers cette saison, ce qui veut dire qu'il y a juste les 49ers de San Francisco qui sont toujours invaincus du côté de la NFL. Alors, le podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Danny, les éliminatoires sont finalement arrivés. Est-ce que tu es prêt là, aux éliminatoires de la Ligue canadienne?
Enfin, on passe aux choses sérieuses. Là, maintenant qu'on sait qui va être en place, qui joue pour les grands honneurs, là, c'est du bon football qui commence.
Oui, bien, comme on sait, bon, les Alouettes vont affronter les Eskimos d'Edmonton dimanche au Sappers Soul Molson. Ça va être la première fois en 5 ans que les Alouettes participent aux éliminatoires. Ça va être la première fois depuis 2014 qu'il va avoir un match éliminatoire à Montréal. La dernière fois, c'était lors de la demi-finale de l'Est de 2014 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Cette année, en vertu du croisement, ce sont les Eskimos qui s'amènent en ville. Alors, sans plus tarder, on va aller rejoindre au téléphone l'ailier défensif des Eskimos, Mathieu Betts. Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation afin de participer au podcast Le Sac du Cœur. Alors, écoute, avant de parler du match éliminatoire contre les Alouettes, la dernière fois qu'on s'était parlé, durant l'été. Tu n'avais pas encore participé au camp d'entraînement des Bears. Malheureusement, tu n'as pas été en mesure de te tailler une place au sein de la formation de Chicago. Mais toutefois, maintenant, tu te retrouves avec les Eskimos. Les Eskimos avaient repêché en première ronde le printemps dernier. Alors, comment s'est passée pour toi la transition de la NFL au football de la Ligue canadienne?
Oui, ça a bougé beaucoup, effectivement, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Mon adaptation s'est quand même bien faite au niveau du football canadien. Je pense que j'étais quand même à l'aise de retrouver un style de jeu dans lequel j'ai évolué durant 4 ans avec le Rougeur de l'Université Laval. J'ai eu la chance d'arriver à Edmonton durant un bye week, donc j'ai pu me familiariser un petit peu avec le cahier de jeu, avec les installations, un peu comment l'horaire fonctionnait, comment circuler dans la ville d'Edmonton, me trouver un appartement. Donc ça a bougé vite, mais j'ai eu la chance de quand même de faire partie de l'équipe pour les 6 derniers matchs de la saison régulière. Maintenant, je sens que je fais partie de l'équipe, je suis plus à l'aise dans le système de jeu, plus à l'aise avec un peu l'horaire, comment ça se déroule au courant de la semaine dans un horaire de la Ligue canadienne de football. Donc, je suis bien content d'être allé à Eskimo, puis je suis évidemment excité de commencer les éliminatoires dimanche.
Ouais, Matt, maintenant que t'es confortable, t'es plus en plus confortable dans ton rôle là, avec les Eskimos d'Edmonton, avant que tu passes aux choses sérieuses là, du match de séries éliminatoires, est-ce que tu dirais, tu sais, que moi je te respecte beaucoup là, comme athlète puis comme joueur de football, est-ce que tu dirais que maintenant tes aspirations NFL sont-tu terminées?
Je te dirais pas que sont terminées. Je pense que le mot, ce serait plus sont mises sur la glace, dans le sens que je compte honorer mon contrat avec les Eskimos, mon objectif, c'est de faire tout en mon pouvoir pour aider l'équipe, pour performer le mieux possible, personnellement, pour contribuer à travers un succès collectif. C'est sûr que au niveau de la saison régulière, c'est peut-être pas la fiche qu'on voulait, mais on a quand même l'occasion de se reprendre puisqu'on est dans les séries éliminatoires, qu'on fait le croisement dans l'Est. Donc, c'est une nouvelle saison qui commence. C'est certain que nous, on veut se rendre le plus loin possible. On se prépare, on va commencer à partir de demain à se préparer fort pour les Alouettes de Montréal. J'ai vécu beaucoup, je vais pas dire au jour le jour, là, mais essayer de m'améliorer constamment. Donc, je verrai pour ce qui... Ça va être comme mes opportunités professionnelles suite à mon premier contrat avec les Eskimos.
Ouais, un point de vue personnel, ça doit quand même être spécial. Tu as joué ton premier match éliminatoire contre les Alouettes. Donc, justement, là, comment tu vis ça, là, de jouer contre les Alouettes, là, ton premier match éliminatoire dans la Ligue canadienne?
Ça va être spécial. C'est certain que pour moi, je suis heureux de revenir dans ma ville, de pouvoir jouer devant ma famille, mes amis. C'est sûr que ça, c'est peut-être une partie un peu moins moins le fun du football professionnel jusqu'à présent, où vu que j'évolue dans la RSEQ à l'université, ma famille, mes amis peuvent venir me voir plus souvent. Là, ça va être le fun de pouvoir évoluer devant mes proches. Évidemment, j'ai grandi en écoutant les Alouettes. J'allais voir des parties au stade Percival Molson, donc ça va être le fun de faire partie de cette ambiance-là. J'ai parlé à d'autres joueurs qui ont évolué cette saison comme équipe à l'extérieur contre les Alouettes à Montréal. Ils ont dit que l'ambiance cette saison était super bien au stade Percival Molson. Je pense qu'ils font un bon travail au niveau marketing. Ils ont fait un bon travail pour amener un peu d'intérêt au niveau des partisans pour les Alouettes. Donc, c'est sûr que ça va être une ambiance survoltée dimanche. Puis, je suis content de pouvoir faire partie de ces célébrations-là puis de cette partie-là.
Mmh. Oui, Matt, la dernière fois que les Alouettes avaient affronté les Eskimos, tu ne faisais pas encore partie de l'alignement. Maintenant que tu en fais partie puis tu as eu l'opportunité de faire un peu de préparation là, pour le match qui s'en vient en fin de semaine, qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire, tu sais, du côté défensif, là, dans le vestiaire des Eskimos par rapport à comment contrer Vernon Adams puis les autres atouts offensifs des Alouettes?
Oui, bien effectivement, ça fait quelques semaines que ça se dessine, qu'on risque d'aller jouer à Montréal à une partie éliminatoire. Même si on n'a pas embarqué profondément dans le game plan pour les Alouettes, c'est sûr que on sait que Vernon Adams c'est un joueur super dynamique, puis qui est simplement en feu depuis les dernières semaines, même voire depuis qu'il est en poste comme partant avec les Alouettes. Donc c'est sûr que défensivement, il y a un bon jeu au sol, ils ont des bons atouts les Alouettes. Mais c'est certain que selon moi, la pierre angulaire, ça va être Vernon Adams d'essayer de neutraliser le plus possible. Puis à partir de là, si on est capable de le garder dans la pochette protectrice, je pense qu'on va s'aider défensivement pour essayer de limiter les dommages qu'il peut faire.
Ah, ben justement, bon, il y a plusieurs carrières qui sont des carrières mobiles du côté de la Ligue canadienne de football. Mais c'est quoi le plan de match? Tu as parlé de le garder dans la pochette protectrice. Est-ce que c'est l'objectif numéro un là, en tant qu'ailier défensif au niveau de votre unité sur la ligne défensive, de le garder de la pochette et finalement de le forcer à vous battre avec son bras?
Oui, bien, honnêtement, ça va être un travail à quatre. Là. C'est sûr que ça va être d'égaliser les rush lanes, là, que ce soit les plaqueurs, les deux alliés défensifs, d'essayer de, oui, mettre de la pression sur le carrière, ça va être important, mais de respecter nos corridors quand on met de la pression pour ne pas lui laisser soit des fenêtres pour faciliter ses lectures ou tout simplement essayer de gagner des verges au sol puis de tirer des jeux. Donc, nous, ça va être de lui laisser le moins de temps possible pour faire ses lectures, pour décocher des passes, mais essayer de la garder dans la prochaine protectrice, un petit peu comme tu disais, pour éviter qu'il tire des jeux puis mettre de la pression sur notre tertiaire. Donc, ça va être un travail collectif. Ça va être intéressant de voir comment on va se préparer pour les Alouettes. C'est un petit peu comme je t'ai dit, ils ont une bonne offensive en général. Je pense que ça va commencer par aussi freiner leur attaque au sol, puis par la suite, essayer de limiter les dommages que Vernon Adams peut faire via la voie des airs.
Mm-hmm. Puis une autre personne que je pense qui va être très importante là, pour le match d'en fin de semaine, ça va être votre carrière, Trevor Harris, qui est encore en train de revenir d'une blessure. Là. Il a été quand même sur la touche pendant plusieurs semaines. Il a eu l'opportunité de jouer un match contre Saskatchewan. Il n'a pas joué la semaine dernière, le dernier match contre Saskatchewan. Donc, parle-nous un peu de ce que tu as vu dans les dernières semaines qui te fait penser puis qui te donne espoir là, qu'il est de retour en force puis va pouvoir avoir un bon match là, en fin de semaine. Puis qu'il n'y aura pas de rouille puis il va pouvoir bien contribuer là, à vos succès contre les Alouettes.
Écoute, ça c'est sûr, s'il y a quelque chose que je suis pas inquiet, ça va être des performances de Trevor Harris. Je pense que c'est probablement un des leaders dans le vestiaire à Edmonton. C'est un joueur qui prend sa préparation pour chaque match très au sérieux. Oui, il a été incommodé par des blessures dans les dernières semaines. Il a quand même eu la chance d'évoluer contre Saskatchewan, qui a quand même fini premier dans l'Ouest il y a deux semaines. Il a vécu une très bonne partie je pense que dans nos trois premières séries offensives, on a réussi à marquer des points, ou du moins à traverser le 50 de l'équipe adverse. On a eu un revirement sur la première séquence offensive. Mais je suis pas inquiet quant à la performance de Trevor. Je sais que c'est quelqu'un qui va bien se préparer. Puis dans tous les cas aussi, je pense que Logan Kilgore a démontré qu'il était capable de prendre la relève s'il se passait quoi que ce soit. Mais notre groupe de carrière, c'est un des plus sérieux dans l'équipe, donc je suis pas inquiet qu'offensivement on va être capable de bouger le ballon contre Montréal.
Bon, écoute, Mathieu, je ne veux pas prendre plus de ton temps. On sait, on a eu des problèmes techniques. Alors, ça a été long. Merci beaucoup de ta patience. Et puis, écoute, on va se voir au cours du week-end lors de ta visite à Montréal pour cette demi-finale de l'Est du côté de la Ligue canadienne. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
Merci, Marc.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, les gars.
Alors, on vient de l'entendre, Mathieu Betts, qui dit, bon, naturellement, la priorité, il n'y a pas de surprise du côté de la défense des Eskimos. On va tenter de limiter les dégâts face à Vernon Adams. Que tu as fait allusion au fait que les deux équipes s'étaient affrontées plus tôt cette année, mais c'était très tôt en saison. D'ailleurs, le premier match de la saison des Alouettes avait été à Edmonton. Bon, Montréal avait perdu. Et quelques semaines plus tard, au mois d'août, les Eskimos étaient venus à Montréal avec Trevor Harris au poste de quart. Et les Alouettes avaient été en mesure de défaire les Eskimos d'Edmonton. Toi, à quoi tu t'attends en tant que rencontre? Est-ce qu'il y a un point qui n'a pas été abordé avec Mathieu que tu crois qu'il va être important durant le duel entre les deux équipes?
Bien, c'est à cause de comment les Alouettes ont joué historiquement cette année, là, je m'attends encore à un match serré. C'est sûr que quelque chose qu'on va devoir surveiller, là, c'est vraiment comment les Alouettes offensivement commencent le match. Mm-hmm. Tu sais, historiquement, plus tôt dans l'année, il y avait souvent des départs lents, la défensive jouait bien. Après ça, l'offensive se rattrapait en deuxième demi. Dans les dernières semaines de la saison, on a vu des meilleurs départs de saison avec Vernon Adams dans les quelques séries offensives qu'il y a eu dans les dernières semaines. Joue avec beaucoup de confiance, avance ce ballon, fait des points. Est-ce qu'on va être capable de recréer ça cette semaine contre Edmonton? Puis, est-ce que la défensive va être capable, maintenant que tous les atouts devraient être en place, on a reposé beaucoup de joueurs dans les dernières semaines, est-ce que ces atouts-là vont être capables de recréer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient quand même bien contré Trevor Harris, qui était le carrière la semaine 6, là, quand ils ont battu les Eskimos. Est-ce qu'ils sont capables de recréer ça maintenant qu'ils sont reposés puis ont quelques semaines pour reprendre les forces, voir la vidéo, puis peut-être bénéficier d'un carrière qui va venir, qui potentiellement va être rouillé, là.
Ouais, moi je crois que Trevor Harris, ça va être la clé de la rencontre. Je m'inquiète pas pour Vernon Adams, même si ça va être le premier départ de sa carrière en match éliminatoire. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Vernon lors des dernières semaines contre Ottawa. Bon, oui, Ottawa était la pire équipe de la Ligue, mais tu l'as dit, il a bien commencé le match. Il se débarrassait rapidement du ballon, puis il semble être vraiment en confiance. Alors que du côté de Trevor Harris, c'est que Trevor Harris qui va se présenter. OK? Parce que du côté d'Ottawa, tu t'en souviens, lorsqu'il jouait avec le Rouge et Noir, bon, généralement, il a connu du succès, je crois, sa fiche est de 8 victoires, 3 défaites contre les Alouettes. Mais par contre, on ne sait jamais quel Trevor Harris va se présenter. Le meilleur exemple, c'est l'année dernière en éliminatoire avec le Rouge et Noir. Il avait complété, je crois, 6 passes de toucher lors de la demi-finale, lors de la finale de l'Est contre les Tiger Cats. Puis la semaine suivante, au match de la Coupe Grey, il avait été une des raisons pour laquelle le Rouge et Noir s'était incliné en grande finale. Il a la réputation de ne pas être à son mieux lors des matchs importants, Trevor Harris. Pour moi, c'est ça la clé. Là. Quel Trevor Harris ça va s'amener? Parce qu'on sait, lorsqu'il joue, c'est un des meilleures carrières. Lorsqu'il joue bien, c'est un des meilleures carrières de la Ligue canadienne.
Certainement. Puis, surtout, dans les dernières semaines, les derniers bons carrières que les Alouettes ont affrontés dans les dernières semaines, ça n'a pas super bien été. On pense à Hamilton il y a quelques semaines. On pense à même Toronto. Et puis là, Edmonton qui ont le potentiel avec les atouts offensifs qu'ils ont là, d'avoir une bonne attaque aérienne quand ça clique, quand tout fonctionne. Là. Fait que c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de contrôler les choses puis de corriger les choses qu'on a mal faites dans les dernières semaines. Puis, quelle version de Trevor Harris, comme tu dis, qu'on va avoir. Puis, est-ce qu'on va être capable de bénéficier de toutes ces choses-là pour avoir du succès contre lui. Là. Donc, comme tu dis, là, Trevor Harris du côté d'Edmonton, là, c'est la clé. S'il y a un gros match, ça va être très difficile pour les Alouettes. S'ils sont capables de le neutraliser puis rendre sa vie très difficile cette semaine-là, on devrait mettre les choses du côté des Alouettes pour ça.
Ouais. Oui, parce qu'habituellement, il se débarrasse rapidement du ballon. Également, là, lors du premier match de la saison, bon, il avait complètement taillé en pièces la défense des Alouettes, mais il faut dire que c'était du premier match de Bob Sowick, le coordinateur de la défense des Alouettes, dans la Ligue canadienne. Mais quand même, je me souviens, j'avais parlé avec John Bowman, puis il me disait, écoute, oui, on n'a pas appliqué de la pression, mais il dit qu'il ne conserve pas le ballon rapidement. Là. C'est beaucoup de courtes passes, des passes rapides, des slants. Alors, ça que Bowman disait, il disait, c'est difficile, c'est toujours difficile d'appliquer de la pression contre Harris parce que c'était le même système qu'il avait également à Ottawa. Alors, moi, j'ai hâte de voir là, de quelle façon Bob Sowick va tenter de contrer tout ça. Mais le fait que Cianté Evans également a effectué un retour au jeu la semaine dernière, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un excellent demi-défensif. Alors, on ne peut pas avoir suffisamment de demi-défensif lorsqu'on affronte l'attaque des Eskimos avec Harris et son arsenal de receveurs, comme tu faisais allusion.
Oui, puis qu'est-ce qui avait très bien fonctionné pour les Alouettes la semaine 6? Il avait été très bon en premier essai, donc il avait causé beaucoup de situations de deuxième et long. Puis après ça, pression à 3, on mettait 9 personnes en couverture. Mm-hmm. Ça créait vraiment pas des grosses fenêtres d'ouverture. On n'était pas capable de mettre de la pression, mais ça rendait les choses très difficiles pour Trevor Harris de trouver l'espace à qui lancer. Donc, si on est capable d'être bon en premier essai encore cette semaine, puis remettre les mêmes situations, le deuxième est long, des situations qui ne sont pas très faciles pour les carrières adverses avec des bons secondaires, des bons demi-défensifs, ça pourrait jouer à l'avantage des Alouettes.
Oui, puis on n'a pas mentionné le nom de William Stenback du côté de l'attaque des Alouettes. Stenback qui est clé, selon moi. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Vernon Adams. Avec raison, mais on sait, on l'a vu là, surtout lors du premier tiers de la saison, alors que Stenback était à 100%, à quel point il donnait des maux de tête aux défenses adverses. Puis là, du William Stenback qu'on a vu, on l'a reposé lors des dernières semaines, mais quand on lui a remis le ballon, il semble avoir les jambes fraîches. Je le regardais courir contre Ottawa, je revoyais le William Stenback qu'on avait vu en début de saison. D'après toi, est-ce que les Alouettes vont être en mesure justement de courir avec succès avec le ballon contre le front de la défense des Eskimos?
Moi, je pense que oui. Une des choses, le succès de Edmonton, c'est vraiment du côté de attaquer le carrière. Ils sont très bons en situation. Je pense qu'ils sont deuxièmes dans la CFL cette année avec le nombre de sacs du corps total. Mm-hmm. Ils ont quand même des bons ailiers, une bonne ligne défensive qui sont capables de se rendre. Donc, si on est capable de contrer ça avec un jeu au sol établi, soutenu, que ce soit avec Stenback, que ce soit avec Jeremiah Johnson, faut pas oublier qu'il peut être un peu quelqu'un qui seconde et qui est très capable de faire des jeux. Là. Donc, c'est peut-être un monstre à deux têtes qu'on est capable d'utiliser pour faire en sorte que les deux porteurs de ballon sont toujours frais, sont toujours physiques, sont toujours capables de faire des jeux dans des situations de premier essai et même deuxième essai par la passe, etc. Donc, si on est capable d'utiliser toutes ces choses-là, je pense qu'on va être capable d'avoir des succès puis faire en sorte qu'on joue où est-ce que les Eskimos Amis ne veulent pas jouer. Eux, ils veulent aller vers la carrière, se mettre en situation de passe, puis peut-être que...
Avoir des deuxièmes et longs.
Exact. Peut-être que contrer des blocs, c'est pas la chose que ces gens-là aiment le plus faire. Donc, si on est capable de bénéficier de c'est un stand-back frais puis un Jeremiah Johnson, ça pourrait aider les Alouettes.
Ouais, j'espère que Kerry Jones va commencer en courant avec le ballon. Là, des fois, c'est très facile de délaisser le jeu au sol au football canadien, mais j'espère qu'on va être patient parce que moi, je crois vraiment que Stenback peut être le joueur clé des Alouettes contre les Eskimos. On va surveiller, bon, les Alouettes qui vont reprendre l'entraînement. On va surveiller est-ce que Devier Posey sera de retour au jeu également, parce que lorsque Posey est là, ça amène vraiment une autre dimension à l'attaque des Alouettes. On l'avait vu, le match qui s'est blessé, il avait très bien fait en première demi. Est-ce qu'on va voir toutes nos armes? Quanbury avait raté le dernier match, mais on disait qu'il sera en mesure de jouer, c'était juste par mesure préventive. Alors avec Bray, Devier Posey et bien sûr Eugene Lewis, on a beaucoup d'armes à la disposition de Vernon Adams. En tout cas, on va voir ça. Le match va avoir lieu dimanche à 13h. Il sera présenté bien sûr sur les ondes de RDS. C'est d'ailleurs la première fois que les deux équipes vont s'affronter en éliminatoire depuis 2008. Tu étais un membre des Alouettes. Le match avait lieu au stade olympique. Est-ce que tu te rappelles de cette rencontre?
Ben, je me rappelle, ça n'avait pas très bien commencé pour nous. Si je me rappelle, je pense qu'on avait je pense qu'Hamilton avait bloqué un kick de Damon Duval, un punt return qui avait causé un toucher de l'opposé. Donc, ça avait vraiment mal parti pour nous. Puis, je pense, si je me rappelle bien, la personne qui avait sauvé les meubles un peu pour nous, c'est Larry Taylor. Deux retours de beauté sur des beautés de retour de dégagement là, qui avaient vraiment fait la différence. Fait qu'espérons peut-être que l'histoire pourrait se répéter. Là, on n'est pas certain. Est-ce que ça va être Alford? Est-ce que ça va être Ryan? On dirait qu'ils ont remis Ryan dans l'alignement. Est-ce que c'était sur forme d'essai? Est-ce que Alford est en santé? Donc, mais ça serait bien de voir du support un peu des unités spéciales là, cette semaine.
Ouais, ça, on n'a pas parlé des unités spéciales, tellement de facettes importantes. Boris Bédé a vraiment connu toute une saison.
Tout à fait.
Ça avait mal été au tout début de la saison, mais là, il est sur une excellente séquence en termes de placement. Ses bottes de dégagement également, ça va bien lorsqu'il les envoie dans le coin, généralement. Il le fait très bien. Alors, les unités spéciales vont avoir leur mot à dire comme lors de tout match de football. Maintenant, on va se tourner du côté de l'Ouest. Plus la demi-finale de l'Ouest va mettre aux prises les Blue Bombers de Winnipeg aux St. Peters de Calgary. Winnipeg a gagné la série de 3 matchs en saison régulière 2-1. Question de savoir qui sera le carrière partant du côté des Bombers. Est-ce que c'est officiel que ça va être Zach Collaros? Est-ce qu'on va revenir à Chris Traveller qui s'était blessé en fin de saison? Si tu étais Mike Cochet, avec qui tu irais au poste de quart, toi?
Ben moi, c'est sans équipoque. Il faut aller avec Zach Collaros. C'est le
carrière. Si les deux sont en santé, là, je parle.
Oui. Si les deux sont en santé, on y va avec Collaros. C'est un carrière d'expérience, un carrière qui est un peu... Il y a les deux choses, c'est qu'il joue pour lui. Il est capable de te battre avec son bras. Il est capable de te battre avec ses jambes et allonger des jeux puis faire des jeux. Je pense que c'est le carrière qui donne les meilleures chances offensives pour les Blue Bombers. Puis si jamais Traveller est en santé, je pense que ça fait juste ajouter un atout de plus. plus pour Paul LaPolice et les Winnipeg Blue Bombers là, d'avoir un atout offensif de plus. Puis je pense que la combinaison est d'autant plus dangereuse là, quand ils sont capables d'aligner. Ils sont capables d'aligner Strevler, ils sont capables de Colaro, ils sont capables d'avoir leur porteur de ballon. Andrew Harris aussi dans le champ arrière. Ça devient très difficile là, pour contrer une attaque quand tu as tous ces éléments-là dans le champ arrière.
Oui, j'en parlais la semaine dernière avec Mathieu Proulx au podcast. Puis le point qu'il amenait, puis c'est un excellent point, ça vient rejoindre un peu qu'est-ce que tu viens de dire. Il disait lui aussi, il irait avec Zach Collaros parce qu'il disait écoute, si Collaros est ton partant, il dit c'est comme si tu retrouves le système à deux quarts que les Blue Bombers utilisaient en avec début Nichols. De saison l'année dernière, exactement, avec Mac Nichols et Strevler qui s'amenaient, et des fois pour changer le rythme de la rencontre ou lors des situations de court gain. Il dit tu te retrouves avec un meilleur passeur en Collaros, puis tu gardes les qualités athlétiques de Strevler en gardant la formation. Donc, tu gardes comme ça un monstre à deux têtes à la position carrière, puis en plus de ça, tu as Andrew Harris dans le champ arrière comme porteur de ballon. Beaucoup de préparation à faire pour les défenses adverses. Écoute, si tu avais une prédiction à faire pour la demi-finale de l'Ouest entre les Bombers et les Stampeders, les Bombers qui ont, il y a deux semaines justement, ils ont vaincu les Stampeders avec Zach Collaros, une passe de toucher à la fin du quatrième quart. D'après toi, qui sera en mesure de l'emporter? Le match va avoir lieu au McMahon Stadium à Calgary.
Moi, je donnerais l'avantage à Winnipeg.
Si jamais, si le match est à Calgary.
Ah oui, si Winnipeg, si Collaros est en santé, Strevler est en santé, oui. Je pense que cette combinaison-là peut faire la différence. C'est sûr que c'est deux bonnes défensives, mais j'ai l'impression que Calgary sont un peu unidimensionnels offensivement.
Il n'y a pas de jeu au sol. Exact. Hein, toute la saison,
les deux dernières semaines, Bolivar Mitchell doit tout faire tout seul. Puis des fois, c'est beaucoup trop de pression. Mais tu sais, c'est deux bonnes défensives. Ça a toujours donné des matchs. Les trois matchs ont été des matchs serrés, donc je ne m'attendrais pas à avoir quelque chose de différent cette semaine-là. Mais je donne un peu l'avantage à cause de la complexité là, de défendre. Le monstre à trois têtes là, de Andrew Harris, Strevler, Collaros, si tout le monde clique. Je pense que les deux défensives vont donner des fils à retard aux deux attaques adverses.
Parce qu'on sait, on s'est affronté en plus trois fois en saison régulière. Donc, du côté des Stampeders, on est habitué de voir ce monstre à trois têtes dans le champ arrière. Alors, je ne sais pas, Bolivar Mitchell parier contre lui à domicile.
C'est ma prédiction. Moi, je ne serais pas surpris de voir ça. Puis, tu sais, la défensive des Blue Bombers avec Winston Rose, Jefferson, c'est peut-être des gars qui ont une attaque unidimensionnelle qui pourrait faire des flamèches puis rendre la vie très difficile.
Oui, provoquer des revirements. Oui. Faut pas oublier les unités spéciales des Bombers sont toujours excellentes. Mm-hmm. On a eu des ennuis, surtout lors de la première moitié de la saison du côté des Stampeders de Calgary. En termes de couverture de beauté, on avait accordé plusieurs retours pour des touchés. Alors, est-ce que ce problème-là va refaire surface lors des éliminatoires? Ce sera à surveiller. Mais encore une fois, la demi-finale de l'Ouest sera également présentée sur les ondes de RDS immédiatement après la demi-finale de l'Est entre les Eskimos et les Alouettes. Alors, comme tu as dit, on passe aux choses sérieuses dès dimanche 13h. J'ai bien hâte. Ça a été long. La saison a commencé au mois de juin. On est rendu au mois de novembre. Puis là, on va voir quelle équipe accédera aux finales de division du côté de la Ligue canadienne. Maintenant, on va se tourner du côté de la LFL. C'est toujours la 9e semaine d'activité. Il reste un match ce soir. Les Cowboys qui vont affronter les Giants. Bon, on va faire un retour sur les rencontres qui étaient présentes dimanche. Et on va commencer avec la rencontre entre les Ravens et les Patriots. Les Ravens qui ont vaincu les Patriots 37-20. Le match avait lieu à Baltimore. Donc, une première défaite cette saison pour les Patriots. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? J'imagine que ça doit commencer un peu avec Lamar Jackson.
Bien, c'est sûr que ça commence avec Lamar Jackson, mais en tout, tu as vu une équipe les Ravens de Baltimore sans complexe d'infériorité contre une équipe qui n'avait pas perdu de match. Le grand Tom Brady, le grand
Les Ravens ne sont jamais, historiquement, excuse-moi de t'interrompre, ne sont jamais intimidés contre les Patriots. Dans le temps avec Ray Lewis, Ed Reed.
Mais dans ce temps-là, il y avait ces personnes-là pour un peu backer ce sentiment-là. Mais maintenant, c'est un peu des gens qui n'ont pas accompli grand-chose dans les dernières années.
Tu as toujours John Harbaugh, l'entraîneur-chef. Exact. Lui, je pense qu'il est intimidé. Là.
Peut-être que c'est quelque chose qui est dans la culture de l'organisation. Puis dans l'ADN de Baltimore puis dans les Ravens.
Ed Reed était là sur les lignes de côté du match, justement.
Ça doit aider, mais comme tu décris, là, tout commence avec Lamar Jackson. C'est un joueur vraiment unique, spécial, qui semble un peu changer la donne. Là, T'sais, pour nous, ça fait un peu de sens de dire, ben, t'sais, c'est Lamar Jackson qui va avoir le ballon. T'sais, tu loads la boîte, tu joues plus un.
Ouais,
mais qu'est-ce qui arrive, c'est que leur plus un n'est pas assez bon pour battre et pour couvrir Lamar Jackson. Donc, il faudrait presque que tu joues plus deux sur Lamar Jackson. Puis là, tu ouvrirais beaucoup d'espace par la passe. Puis il est capable de te battre par la passe s'il y a besoin. Là, mais il est très difficile à contrer. Là, j'ai regardé les statistiques. Là, il est dixième dans la NFL comme porteur de ballon. Là. Donc, t'sais, sur 32 équipes, là, c'est le dixième meilleur porteur de ballon. Puis ça veut dire qu'il y a 22 porteurs de ballon, des starting running back dans la NFL qui ne sont pas meilleurs que Lamar Jackson, qui est un carrière. Puis le 12e, c'est Ingram qui est dans cette équipe-là. Donc, quand ils courent la balle comme ils courent la balle, ils sont très difficiles à défendre. Ils sont bons à courir la balle, ils sont bons à arrêter les courses adverses là, du côté opposé. Donc, ça rend la job très difficile là, pour les équipes adverses quand ils jouent contre les Ravens.
Moi, ouais, je crois que la marque finale n'indique même pas l'allure de la rencontre parce que, bon, les Patriots, si je me souviens bien, là, deux de leurs touchés ont été inscrits à la suite de revirements. Mm-hmm. Alors, si ça n'avait pas été de revirements, ben, les Ravens auraient vraiment emporté haut la main. Du côté des Patriots, par contre, on se rend compte qu'il y a des lacunes. Parce que moi, c'est pour ça. Là. Oui, les Patriots, bon, ils étaient invaincus, mais je le disais lorsqu'on était en onde. Oui, mais la qualité du calendrier, puis un peu tout le monde disait ça. C'est pas comme si là, on avait affronté de grandes équipes lors de la première moitié de la saison. Mais il y a une chose qu'on a remarqué également, c'est qu'on n'a pas les athlètes nécessairement pour couvrir les porteurs de ballon ou les ailiers rapprochés. Dante Hightower, tout un joueur de football, mais là, il est vieillissant. Mm-hmm. Puis à quelques reprises, on l'a vu en couverture, là, il était tout simplement trop lent. Là. Et puis du côté de l'attaque des Patriots, écoute, je sais que Rob Gronkowski ne va pas revenir au jeu, mais je regardais une statistique, la position des lits rapprochés, cette année, en 8 matchs, 14 réceptions seulement. Wow. Du ouais. côté de des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Oui, puis alors, pour une équipe qui dépendait autant là, de la position de les rapprocher, là, c'est sûr qu'ils sont un peu à l'extérieur des eaux dans lesquelles ils aiment être, là, donc c'est sûr que ça doit être déstabilisant pour eux.
Oui, non, c'est ça. Mais écoute, moi, je crois pas qu'il faut s'alarmer du côté des Patriots parce que l'attaque des Ravens, tu vois, on vient de parler de l'attaque des Blue Bombers de Winnipeg du côté de la Ligue canadienne. Moi, je compare un peu les deux attaques parce que ça te donne tellement de choses à te préparer. C'est des attaques qui ne sont pas conventionnelles. Beaucoup de choses à te préparer. Il y a beaucoup de misdirection dans le champ arrière. Donc, ça requiert beaucoup de discipline au niveau des yeux de la part des secondeurs de ligne lorsqu'on tente là, de déchiffrer qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et puis, Lamar Jackson est tellement un joueur unique. Parce que Lamar Jackson, à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est lui le meilleur athlète. Il est le joueur le plus rapide. Mm-hmm. Il est le meilleur athlète et il joue à la position de carrière. Donc ça donne vraiment un casse-tête à solutionner qui est vraiment unique pour un entraîneur comme Bill Belichick. Mm-hmm. Parce que défensivement, tu peux tout faire correctement. Puis si Jackson se met à courir, s'il est simplement plus rapide que le joueur que tu as qui tente de le couvrir, ben écoute, il va aller chercher un long gain. Ça, sans parler du jeu de l'option, de tout ça qu'on a. Donc, ça en donne beaucoup à se préparer. Moi, j'espère revoir les deux équipes s'affronter en éliminatoire. Parce que souviens-toi, l'année passée, les Patriots avaient affronté les Chiefs en saison régulière. Les Chiefs avaient eu le déçu. Puis ça permet à Belichick d'apporter des ajustements. Et quand les deux autres équipes se sont affrontées en éliminatoire lors de la première demi de la finale de l'association américaine, l'attaque des Chiefs n'avait presque rien fait. Donc, si les Patriots, juste garder ça en tête, si les deux équipes s'affrontent à nouveau, c'est là qu'on va devoir garder un œil sur les ajustements potentiels du côté de Bill Belichick. Mais vraiment, ça a été tout un match, toute une performance de la part de Lamar Jackson. À Londres, il y a les Texans de Houston qui ont défait les Jaguars de Jacksonville par la marque de 26-3. C'est un match qu'on vous a présenté sur les ondes de RDS ce dimanche matin. Ça commençait à 9h30. Moi, j'ai été impressionné par la performance de la défense des Texans parce que c'était le premier match sans les services de J.J. Watt dont la saison est terminée. On sait qu'on n'a pas une excellente tertiaire. Gardner Minshew jouait très bien lors des dernières semaines. Mais là, vraiment, on a complètement arrêté Minshew. Minshew a été victime de 3 interceptions au 4e quart. Ça a vraiment été une belle performance à part des Texans. Mais pas juste ça, on a complètement arrêté le jeu au sol. Leonard Fournette aussi connaît une excellente saison. Il n'y avait absolument nulle part où aller tout au long de la rencontre. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette rencontre-là. Toi, qu'est-ce que tu as retenu?
Oui, belle performance globale de la défensive des Texans, comme tu dis, là, surtout sans les services de J.J. Watt. Moi, c'est un peu plus du côté offensif. Là, un autre carrière qu'on semble super apprécier à regarder, là, DeSean Watson. Il le fait un peu d'une autre manière. Il est capable de courir. Il n'est pas aussi vite que Lamar Jackson. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses jambes pour allonger des jeux, pour faire la passe longue? Là, c'est un peu incroyable. C'est du très beau football à voir. Là, c'est un gars qui est en contrôle de ses moyens. Puis Le jeu n'est jamais perdu.
À quel point il est fort physiquement? Parce qu'hier, il y a deux passes qu'il a complétées. Puis il y avait un joueur qui l'avait
accroché à lui.
Ouais, au niveau de ses jambes, puis malgré tout, en tombant, il décoche une passe avec précision.
Exact. Puis, tu sais, combiné avec, avec Hyde, le porteur de ballon, qui fait des verges au sol. Là, donc, quand la défensive joue comme elle joue, puis le côté offensif, là, ça fait en sorte que il n'y a pas de grandes équipes qui vont être capables de battre là, ce genre d'effort-là. Puis ça a juste tombé que c'était Jacksonville, puis Gardner Minshew. Puis là, ça ouvre un peu cette performance-là, va un peu ouvrir la porte au débat là, avec qui on va être là avant.
Son congé en plus. La semaine prochaine.
Avec Foles là, qui est prêt à revenir au jeu. Là. Mais qu'est-ce qui va se passer là, du côté de Jacksonville? Est-ce que ça ouvre la porte au questionnement là, de est-ce qu'on va avec le gars qu'on a signé, on a donné le gros contrat, le gars qu'on voulait, le gars qui a gagné, ou bien on reste avec le gars qui nous a amené là?
Écoute, avant le match, moi j'étais complètement vendu à Gardner Minshew. Mais là, le timing. Donc, c'est ça qui est pas bon, parce que là, Foles, il semble qu'il va être prêt à revenir au jeu après la semaine de congé.
D'après moi, on devrait voir Foles. Là, ça va être difficile là, pour eux autres de résister à tout ce qu'on entend, la dernière performance, le gars qu'on a amené, le gros contrat. Il faut aller avec le gars avec qui tu avais décidé d'y aller de l'avant là, il y a deux heures à la saison morte.
Oui, en tout cas, ça va être à surveiller, bien sûr, dans deux semaines lorsque les Jaguars vont revenir au jeu. D'ailleurs, Doug Burrow, l'entraîneur-chef, il a dit qu'il n'allait pas prendre de décision jusqu'à la fin de la semaine de congé, donc jusqu'à la semaine prochaine concernant l'identité de son carrière partant. Alors, c'est une grosse victoire des Texans, étant donné que, bon, les Jaguars font partie de la même section que Jacksonville jouait très bien récemment. Les Dolphins de Miami ont gagné un match, Danny. Ils ont défait les Jets de New York par la marque de 26-18. Écoute, ça s'est poursuivi pour Sam Darnold. Écoute, il a été victime d'une des pires interceptions. Là, tu sais, là, tu ris, tu l'as vu. Ça n'a aucun bon sens près de la zone début. T'es en train de se faire saquer. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il avait regardé de Sean Watson. Il s'est dit, OK, moi aussi, même si je suis en train de me faire plaquer, je peux décocher une passe. Ouais. Il a envoyé ça comme du revers de la main. Mm-hmm. En tout cas, c'était laid, c'était affreux. Donc, ça se poursuit depuis son mauvais match contre les Patriots. Ça n'arrête pas. Mais pour les Dolphins, bon, c'est une première victoire finalement.
Oui, finalement, une victoire pour les Dolphins. Fitzpatrick qui joue bien. Par contre, c'est pas de support par la course, mais il trouve le moyen de gagner. C'est sûr que c'est plus une mauvaise performance des Jets qui mène à la victoire des Dolphins qu'une belle performance des Dolphins. Mais pour moi, c'est sûr qu'on souligne la sous-performance de Sam Darnold, comment il a performé. Mais moi, je pense qu'une des personnes qui déçoit beaucoup cette année, c'est Le'Veon Bell là, qu'on sent qu'il est pas mal absent, qui fait pas grand chose.
Il n'y a pas de ligne à l'attaque.
Mais quand même, c'est le gars qui doit faire une différence, qui ont été amenés pour faire une différence. Puis finalement, il est un peu absent. Puis un des sacs du corps au quatrième quart qu'il a donné, je sais pas trop comment il regardait. Il était aligné à droite, il regarde à gauche, il se déplace vers la gauche, puis il laisse un secondaire venir frapper Sam Darnold, l'erreur d'assignement. Pas très impressionné là, par Le'Veon Bell.
Ouais, mais je pense que ça commence à peser sur lui. Lui, il n'est pas habitué à ça. Il a toujours fait partie d'équipe gagnante à Pittsburgh. Mais je sais pas si tu as vu ce que Adam Schefter d'ESPN a tweeté hier, comme quoi qu'à la date limite des transactions la semaine dernière, apparemment les Steelers ont appelé les Jets. Ben, ils ont démontré un intérêt pour rapatrier Le'Veon Bell. Finalement, on n'en est pas venu à une entente. Mais ça, c'est à la suite de la blessure à l'épaule de James Conner. Alors, on a tenté de rapatrier Le'Veon Bell. Mon Dieu, je pense qu'il aurait été heureux. Écoute, il aurait eu son argent, son boni avec les Jets. Puis là, il serait retourné à Pittsburgh avec une bien meilleure organisation. Je pose la question à Adam Gase, entraîneur-chef des Jets. Tu viens de perdre contre les Dolphins. Puis les commentaires de Gase après la rencontre, là, j'ai ça ici là, sur l'ordinateur. Il y a un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que tu es embarrassé par cette défaite? » Alors, perdu contre Miami qui n'avait aucune victoire. Il a dit « Ah, écoute, c'est la NFL, on ne peut pas être embarrassé par des choses comme ça. » Moi, je pense que oui. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais que c'est du football professionnel, mais écoute, là, les Dolphins, eux, ils font pratiquement exprès pour perdre. Puis là, toi, tu vas perdre contre eux. Moi, je pense à Adam Gase, ça pourrait être one and done, comme on dit, une saison, puis on passe à un autre appel.
Ça pourrait l'être, puis peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'embarras parce que les attentes sont pas très élevées par lui-même. Là, c'est pas comme s'il était 7 victoires, 0 défaites, puis il perdait contre Miami. Là. Il était une victoire, 6 défaites, là, donc de perdre contre Miami. Peut-être c'est pour ça là, qu'il ne peut pas être, tu sais, par respect par les autres personnes qui affrontent, il ne va pas dire qu'il a honte d'avoir perdu, mais il doit réaliser que ce n'est pas acceptable de perdre contre une équipe qui a pas gagné de match et qui allait bien. Mais les choses vont mal à New York. Là, puis ça, comme tu dis, là, ça ne sera pas surprenant que ce soit one and done pour lui là, parce que là, ça ne va pas dans la bonne direction. Puis rien qui va bien. Là.
Non, il y a vraiment plusieurs équipes qui sont franchement mauvaises dans la NFL cette année. Là, les Jets, naturellement, les Dolphins, les Bengals également. Mm-hmm. Là, des équipes semblent être des causes perdues ou à peu près, là, qui se battent, entre guillemets, pour le premier choix du repêchage. Mais non, Adam Gase, j'ai jamais vraiment été un fan de lui. À Miami, il lançait souvent les joueurs sur l'autobus lors de ses points de presse après les matchs. C'est jamais de sa faute. Il semble vraiment pas être un grand leader. Puis à chaque fois, je le vois parler aux médias new-yorkais.
Ouais. C'est un peu un être bizarre. Là. Puis, ouais. je serais curieux de voir à quel point ce gars-là, dans le vestiaire, il connecte bien avec les joueurs puis capable de développer une bonne relation. Là, c'est pas qu'il y a un Curry Jones là, contact avec les joueurs.
Je pense pas.
Je vais passer à travers le mur pour toi. Là. Ouais. C'est peut-être le gars que les gars dans le vestiaire disent « Hey, ce gars-là, il est un peu bizarre. »
Non, c'est ça. Mais en tout cas, bon, c'est une autre saison perdue du côté des Jets de New York. On est habitué à ça. Des Jets, malheureusement. Les Panthers à Caroline, ils ont très bien rebondi. Là. Après cette fête embarrassée la semaine dernière, ils ont accordé 53 points 53 ou 51 points qu'ils avaient accordés aux 49ers de San Francisco. Je m'attendais à ce que les Panthers rebondissent. Ils l'ont fait. Ils ont gagné 30-20 à domicile contre les Titans du Tennessee. Encore une fois, une autre excellente performance de la part de Christian McCaffrey. Toutefois, il semble que Cam Newton, il est possible qu'on ne le revoie pas là, cette saison. On s'est ennuyé par une blessure à un pied depuis plusieurs semaines. Il est allé voir un spécialiste. Puis il semble que sa blessure ne s'améliore pas. Alors là, pour le moment, on va continuer avec Allen au poste de quart qui a bien fait hier.
Exactement. Comme tu dis, ça va prendre ça de Christian McCaffrey là, pour que les Panthers soient capables de faire quoi que ce soit offensivement. Moi, la note que je me suis mise, est-ce que c'est ça la vie après Cam Newton pour les Panthers, la Caroline? Est-ce que Kyle Allen est la personne qui va être capable d'en faire assez? Là, c'est pas le gars qui va tout casser, mais est-ce qu'il est capable
de... Mais les jeunes encore, là, c'est ce qu'il faut dire.
Ouais. Est-ce qu'il va être capable d'en faire assez puis pas faire mal à l'équipe puis permettre au McCaffrey puis de donner la balle à DJ Moore puis à Curtis Samuel? Ces gars-là vont devoir se taper pour bien l'encadrer puis bien le soutenir pour soit capable de bien faire. Puis, tu sais, la défensive va être capable de devoir continuer à bien performer de la sorte, c'est d'arrêter Derrick Henry, 63 verges. Ça va prendre ce genre de performance-là là, pour être capable de continuer à avoir des succès du côté des Panthers.
Oui. Alors, du côté des Titans, bon, l'attaque est plus productive avec Ryan Tannehill au poste de quart. Mais là, bon, on s'est incliné, mais c'était sur la route, comme je disais. Les Panthers avaient beaucoup à prouver après avoir été complètement embarrassés face aux 49ers de San Francisco. Les Bills de Buffalo, ils ont défait les Redskins de Washington. Bon, tu vois, tout à l'heure, quand j'énumérais les équipes qui sont des causes perdues, j'ai oublié de mentionner Washington. C'est une victoire de 24-9. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ce match-là. Qu'est-ce que tu as retenu?
Ben, Haskins, c'est son, un de ses premiers départs. Puis, il n'a pas l'air d'être prêt. Il a retenu souvent le ballon là, qui a causé des sacs du corps. On retient Adrian Peterson là, qui semble refuser de vieillir.
Plus de 100 verges.
Un match de 100 verges, pas beaucoup.
Il y avait deux vieux porteurs de ballon qui s'affrontaient, lui et Frank Gore.
Là. Exact, deux vieux porteurs. Puis on dirait que les Buffalo avaient beaucoup de misère à plaquer Adrian Peterson là, qui jouait. Puis peut-être qu'il aurait dû lui donner plus de ballons. Je pense qu'il y avait juste 18 courses là, en fin du match. Fait qu'il aurait dû peut-être y en donner un peu plus pour se donner des meilleures chances. Là, mais Buffalo se devait de remporter ce match-là. C'est une meilleure équipe qui joue mieux. Là, donc, c'est pas surprenant de voir là, que Buffalo remporte ce match-là.
Ouais, la seule chose que je veux dire à propos de Dwayne Haskins, ce que j'ai trouvé, je vais dire troublant, là, c'est un peu trop fort comme mot, mais il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, du moins dérangeant, c'est que la semaine dernière, publiquement, Adrian Peterson a dit qu'il avait parlé à Dwayne Haskins, puis il lui a dit « tu dois mieux te préparer ». OK, puis il a dit ça publiquement. Là. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dire, que j'avais lu lors des semaines précédentes. Puis il y avait des gens qui disaient pourquoi on ne donne pas à Haskins sa chance, tout ça. Mais apparemment, il n'est pas mature. C'est un joueur, il était un choix de première ronde. Puis il pense déjà là, que bon, la concession est à lui, étant donné que c'est le propriétaire, Dan Snyder, qui voulait absolument qu'on le repêche. Puis là, il n'est pas très studieux, apparemment. Puis là, le fait qu'Adrian Peterson l'a pris à part, puis lui a dit, regarde, tu dois mieux te préparer. Adrian Peterson, qui est un vétéran.
Exactement.
Pour moi, c'est pas bon signe. Là,
c'est jamais bon signe. Puis on a toujours senti qu'il y avait anguille sous roche. Il y avait une raison pourquoi Haskins n'avait pas des chances, même si ça allait pas bien avec les autres carrières. Puis c'était lui le carrière repêché de concession. Donc, c'est pas surprenant. Puis, d'après moi, un vétéran comme Adrian Peterson, ce message-là qu'il envoie par les médias, c'est sûrement pas son premier message. C'est un vétéran qui
ça, il a dû lui dire.
Il a dû lui dire plusieurs fois, tu sais, à part, tu sais, dans un coin, tu sais, je te recommande, tu devrais, tu sais, ceux que j'ai connus dans le passé, dans ma carrière, dans mon expérience.
Il lui a même dit, tu sais, il lui a même dit, regarde, lâche Twitter. Est-ce que tu avais tweeté des choses, j'oublie c'est quoi exactement. Puis même Adrian Peterson lui a dit, regarde, t'es en carrière, t'as pas besoin d'être sur Twitter, là. Tu sais, laisse faire ça. Concentre-toi sur le cahier de jeu. Alors, j'espère que le message va passer parce qu'il est talentueux, il a des atouts physiques.
Exact, mais,
mais tu sais comme moi, combien de joueurs de football que tu as vu durant ta carrière, que ce soit dans les rangs professionnels, universitaires ou même collégiales, ils ont des atouts physiques, mais c'est soit au niveau de la tête, au niveau du cœur, il y a un manquement. Alors, on va voir. Ça va être intéressant de suivre le développement de Dwayne Haskins. Bon, assez parlé des Redskins, j'avais dit qu'on beaucoup. Maintenant, les Chiefs de Kansas City, ils ont défait les Vikings du Minnesota 26-23. Les Chiefs étaient privés des services de Laurent Duvernay-Tardif, qui a une blessure au bas du corps. Matt Moore a connu un autre bon match. Andy Reid continue toujours de bien préparer ses carrières réservistes. C'est un historique. C'était le cas à Philadelphie lorsque McNabb se blessait. Que ce soit A.J. Feely ou les autres carrières réservistes qu'on utilisait, Kevin Cobb, ils étaient toujours prêts. La défense, moi, ce que j'ai retenu en plus, c'est la défense de Kansas City qui s'est bien débrouillée contre la course. D'ailleurs, là, ça fait trois matchs qu'on joue mieux. Contre Denver, on a accordé 71 verges au sol. Contre Green Bay, 118 verges. Et là, face aux Vikings, qui ont une excellente attaque au sol, on le sait, avec Dalvin Cook, seulement 96 verges au sol accordées. Donc, finalement, on dirait que la défense semble s'améliorer du côté de KC. Maintenant, bon, c'est d'avoir un retour au jeu également de Pat Mahomes. Mais ça, je crois que c'est vraiment encourageant.
Bien, tout à fait. On sait toujours qu'est-ce qu'on va avoir du côté offensif avec les Chiefs. C'est de savoir est-ce que la défensive va être capable de supporter qu'est-ce qui se passe du côté offensif. Puis là, on l'a vu contre une attaque qui a beaucoup de potentiel avec Dalvin Cook, puis avec l'arsenal de receveurs qu'il y a avec, même si Tilling n'a pas joué, là, mais avec Kirk Cousins puis sa gang, là. De contenir tout ce monde-là. De contenir tout ce monde-là dans un match de même, c'est très bon signe. Puis, tu sais, on sait là, les éclats qu'ils sont capables d'avoir là, du côté offensif avec Hill puis avec Williams.
Ah, Hill était fantastique hier en passant.
Il y a des atouts. C'est un peu illégal des fois de voir ces gens-là aller. Là, puis, ça peut arriver tellement rapidement là, du côté des Chiefs. Là. Donc, s'ils sont capables d'être bien supportés du côté défensif. Puis, en plus, avec le retour de Pat Mahomes, il pourrait partir sur une lancée là, pour les semaines à suivre.
Oui, alors que du côté des Vikings, lorsqu'on regarde les statistiques de Kirk Cousins, bon, ça paraît bien, mais si tu as regardé le match, il y a des passes qu'il a ratées. Puis moi, j'ai l'impression que les Vikings auraient dû gagner ce match-là. Il a été imprécis par moment, puis c'est ce qu'on lui reprochait à Washington. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu lui donner le contrat à long terme lorsqu'il jouait à Washington. C'est que oui, quand tu regardes les statistiques à la fin de la saison, c'est que, ah ben oui, il a connu une bonne saison. Mais lorsque tu regardes les matchs, il y a des passes qui doivent être complétées puis elles ne l'ont pas été. Ça fait mal aux Vikings. Les Vikings auraient dû gagner ce match-là, selon moi. Mais peu importe, écoute, ça va être une belle victoire pour les Chiefs, surtout qu'on avait perdu deux matchs consécutifs à domicile. Alors, on a mis fin à cette séquence-là. Maintenant, les Eagles de Philadelphie, ils ont vaincu les Bears de Chicago par la marque de 22-14. Puis je ris des gens en lisant les statistiques de l'attaque des Bears en première demi. Danny, 9 verges d'attaque en première demi, 9. 20 jeux, 9 verges. Comment est-ce possible?
Je sais pas. Je pense qu'il faut essayer de faire 9 verges pour essayer de se rendre là. Tu peux pas essayer d'exécuter ton plan de match puis de finir une demi avec 9 verges. Puis même, tu finis le match avec 164 verges totales pour un match au complet. Là. Comment tu peux espérer remporter un match là, dans ces circonstances-là? C'est très difficile. Puis encore une fois, Trubinsky, 10-121, 125 verges. Là. Pendant combien de temps on va laisser ça aller là, puis pas passer à
on
n'a
pas d'autres options.
On passer à d'autres choses. Là, ouais. Si je peux.
C'est Chase Daniel, le carrière numéro 2, c'est pas vraiment mieux.
Je peux pas croire que c'est la meilleure solution. Puis si la solution, on peut pas faire d'autres choses avec les gens, mais peut-être que, point de vue système, on doit trouver d'autres manières d'exploiter l'attaque parce que je pense même les pires attaques dans la NFL sont capables de faire plus que 164 verges dans un match.
Écoute, dans mes notes, j'écris que Chicago a besoin de Ryan Tannehill. Écoute, pour de vrai, si Ryan Tannehill jouait avec les Bears, leur attaque serait beaucoup mieux. Puis Ryan Tannehill, là, on s'entend, là, on est loin de Tom Brady.
Tout à fait.
De Peyton Manning. Mais quand même, on a vu l'amélioration du côté de l'attaque des Titans du Tennessee. C'est juste qu'on a besoin, on a juste besoin de ça, là, d'un B moins, là, la position carrière.
Tout à fait.
Puis, écoute, Mitchell Trubisky qui est incapable de donner ça. Alors, du côté des Eagles, bon, c'est une victoire qu'on avait besoin afin de rester dans la course pour le premier rang de la section Ouest avec les Cowboys. On sait qu'on a perdu contre Dallas il y a 2 semaines. Les Steelers de Pittsburgh, ils ont vaincu les Colts 26-24. Bon, les Colts, tôt dans le match, ils ont perdu les services de Jacoby Brissett. Pas été chanceux. Écoute, son garde, Quentin Nelson, l'a blessé comme 2 fois.
Exactement.
Vraiment, il a pilé sa cheville. En tombant, il l'a blessé au genou. Tout ça sur le même jeu. Alors, il n'est pas revenu dans la rencontre. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là, toi?
Ben, c'est ça. La blessure, une autre carrière qui tombe. C'est dommage là, pour Indianapolis. Ils perdent Andrew Luck. Là, ils pensaient avoir trouvé l'homme de la situation avec Brissett. Puis, ça allait bien. C'est une belle fiche. Puis là, tout d'un coup, ils tombent au combat. Puis là, ils sont obligés d'aller au combat, à la guerre avec Hoyer, mais en effort là, de seconder Brissett, c'est 3 passes de touchdown là, pour ton second carrière, là, c'est très optimal. Puis oui, il a lancé une mauvaise interception.
Mauvaise!
Ouais, il a lancé une très mauvaise interception.
Retourné pour retoucher par Minkah Fitzpatrick. Par exemple, c'est que c'était dans la zone
exactement,
début.
Exactement. Ouais, retourné comme 95 verges, là, donc pour te dire à quel point il était proche d'avoir un placement. S'il ne fait pas ce lancer-là.
Ça aurait fait la différence.
Ça aurait pu faire la différence. Exactement. Donc, c'est très dommage de voir ça. Puis, c'est Indianapolis qui donne beaucoup de sacs du corps aussi. Là. Donc, ça rend la job très difficile là, pour leur propre carrière là, d'être confortable et de faire leur job. Du côté de Pittsburgh, oui, la défensive fait très bien l'interception, les sacs du corps. Quelques absents, là, Juju Smith, là, c'est un peu tough. Là, il peut trouver le temps long là, d'être tout seul, puis la seule cible. Là, puis celui
sur Rudolph en plus au poste de corps.
Exact, celui sur qui toute la pression est sur ses épaules, là, puis il doit vouloir performer. Là, donc ça devrait être long pour Juju Smith là, chaque semaine.
Ouais, tu as mentionné la pression qui a été amenée par la défense des Steelers. Ça, c'est un des points que j'ai retenu de la rencontre, c'est qu'on a un bon noyau de jeunes joueurs en défense du côté des Steelers. Là, on peut voir quelque chose qui est d'intéressant commence à être construit. Malheureusement, bon, l'attaque, là, ça va mal sans Ben Roethlisberger notamment, mais avec Devin Bush, Minkah Fitzpatrick, on a parlé de son interception retournée pour un toucher. TJ Watt également. On a beaucoup de bons jeunes joueurs du côté des Steelers. Alors, on ne va probablement pas participer aux éliminatoires, ça reste à voir, mais pour l'année prochaine, ça risque d'être intéressant. Ça, c'est naturellement bon. Si Roethlisberger peut revenir et être à 100%. Et puis, il y a Adam Vinatieri, bon, qui a raté quelques placements. Il en a raté un à la fin de la rencontre qui aurait permis aux Colts de l'emporter. Mais toutefois, le teneur n'a pas tourné les lacets. Je ne sais pas si vous avez la reprise.
Ouais,
les lacets faisaient face à Vinatieri. Alors, le résultat, c'est qu'il a complètement raté sa tentative de placement.
Oui, c'est ça que je me demande. Je me demande à quel point les lacets peuvent, à ce niveau-là, un botteur avec tant d'expérience, à quel point ça peut faire affecter le botté.
Avais-tu été teneur, toi?
Oui, j'avais.
Je m'en souviens avec tes alloués, toi, tu l'as été, ouais.
Je me dis, tu sais, pour que ça, quelqu'un manque, les lacets, c'est pas assez pour faire en sorte que tu manques
de cette
temps.
Façon-là,
ouais. Oui, ça peut changer
c'est complètement
un peu, là,
à gauche.
Complètement
là,
raté, là, puis c'est, ouais. C'est un peu dur à avoir là, un botteur qui a été aussi fiable là, pendant autant d'années. Là.
Il connaît une saison difficile,
il
là,
est 12
aussi,
en 17 cette année, là, tu sais, c'est 70% ou un peu plus que. C'est vraiment pas assez pour ce botteur-là. Puis considérant là, la perte de leur carrière, ils vont avoir besoin d'un effort soutenu là, de ce botteur. Puis surtout quand tu as la chance de remporter un match, un botté qui est réalisable. Là,
il est en fin de carrière. Là,
c'est un peu la fin là, pour un grand botteur là, dans la NFL.
Oui, donc on va se retrouver au temple de la renommée éventuellement. Ça, il n'y a aucun doute. Les Raiders Oakland, ils ont défait les Lions. Le match avait lieu à Oakland 31-24. Écoute, j'en parlais, je pense, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je posais la question, est-ce qu'on assistait à un retour sur Terre du côté des Lions? Souviens-toi, bon début de saison. Là, les Lions ont seulement une victoire à leurs 5 derniers matchs à la suite de cette défaite à Oakland. Josh Jacobs, le porteur de ballon recrue des Raiders, encore une fois connu un bon match. Il semble que du côté des Raiders, on a une identité. On a une grosse ligne à l'attaque, on a un bon porteur de ballon. Puis on sort en premier essai, on court, on recourt encore en deuxième essai. On ne se casse pas la tête, mais on utilise notre force. Je dois donner crédit à John Gruden. On est à la mi-saison, après 8 matchs, 4 victoires et 4 défaites. Puis imagine-toi si Antonio Brown n'avait pas perdu la tête et était resté. Comment l'attaque encore d'Oakland serait meilleure?
Ouais, c'est certainement pour Gruden, c'est un bilan positif là, d'être 4-4 après tout ce qui s'est passé en camp d'entraînement, les joueurs qui ont perdu, les transactions qu'ils ont faites qui se sont mal passées. Donc, c'est certainement un bilan positif. Puis, c'est de savoir comment bien utiliser ses atouts. Puis ça aurait été facile pour eux autres de dire ben, Carr, c'est notre go-to guy, c'est notre joueur le mieux payé, tout doit passer par lui. Il faut qu'il lance pour 400 verges, puis il faut qu'on le déball all the way pour qu'on ait des succès. Puis c'est vraiment pas ça qu'ils font. Ils vont très conservateurs, ils lancent la passe au besoin. Carr, fais-nous pas de mal, on va lancer la balle, on a un bon porte-ballon, comme tu dis, une bonne ligne offensive. Fait que c'est de cette manière-là qu'ils vont, donc mérite à John Gruden. Puis quand je pense à Stafford, à Détroit, là, je commence à me demander s'il va un jour pouvoir gagner à Détroit ou bien s'il va falloir qu'il aille ailleurs pour pouvoir connaître du succès, parce que ce gars-là mérite mieux. Quand
cette année, on ne peut pas blâmer 400 verges hier, puis c'est sans aucune attaque au sol ou
exactement
à peu près.
Ouais.
Écoute, c'est qu'il n'y a rien qui change à Détroit. Mm-hmm. C'est la même chose. T'sais, la défense n'est pas solide. On n'a pas de jeu au sol. On dirait que ça fait 7-8 ans qu'on dit la même chose.
C'est vrai. Ouais.
C'est malheureux pour Matthew Stafford, vraiment. Là. Maintenant, on va se transporter à Seattle. Les Buccaneers visitaient les Seahawks. Ça a été une victoire en prolongation de la part de Seattle, de 40-34 sur les Bucs. L'ami du podcast, Anthony Auclair, a réussi une réception. Russell Wilson, 378 verges, 5 passes de toucher. Écoute, pour la saison, 22 passes de toucher, une interception. Il a été l'étoile du match. C'est un des candidats au titre de joueur par excellence.
C'est un peu incroyable parce que ça n'a pas très bien commencé là, pour Seattle. Là. C'est 21-7 vers le milieu de le deuxième quart. Là. Donc, ça allait super bien pour Tampa Bay.
C'est
la
vrai, les Bucs avaient bien commencé.
Ils jouaient très bien, mais avec un gars du calibre de Russell Wilson, tu es toujours dans la partie. Il va toujours te donner une chance de remporter. Puis, 22 passes de toucher puis une interception, là, c'est des statistiques qui sont incroyable. C'est difficile de faire ce genre de performance-là en pratique, en skelly, c'est de bien protéger le ballon, puis tu sais, contre une défensive qui essaie de te contrer, puis de te défendre, de pas faire de revirement avec le ballon. Là, c'est très incroyable.
Oui, ça a été également tout un match à part du receveur de passe Lockett.
Oui, Lockett, Metcalf.
Qui connaît vraiment toute une saison, ouais.
Oui. Fait que deux receveurs, là, Lockett au-dessus de 150 verges, deux touchdowns. Metcalf, la recrue, là, 123 verges, un touché. Donc, il semble trouver ses atouts, il semble trouver ses repères. Même Carson, 105 verges par la course. Là, donc, offensivement, là, tout cliquait. Il fallait juste leur donner le temps de partir le tout là, pour être capable de bien performer.
Oui, Carson qui a été victime d'échapper encore une fois. Il y avait ce problème-là en début de saison. Ça faisait quelques semaines qu'il n'avait pas échappé le ballon. Mais ça, tu sais, il n'y a rien qui enrage plus les entraîneurs plus rapidement en attaque là, que
fait
d'échapper le ballon.
Tout à fait.
Jameis Winston, aucune interception, mais il a été victime d'un échappé.
Bizarre.
Puis ça a coûté. Là, puis c'est le moment, encore une fois, durant le match au cours duquel il est victime d'un revirement. La semaine dernière, on avait Anthony Auclair comme invité ici. Puis c'est ce qu'il nous disait. Il dit, écoute, oui, on a fait cadeau du ballon à plusieurs reprises depuis le début de la saison aux équipes adverses. Puis il dit, malgré tout, on est dans les matchs. Mm-hmm. Il dit, si on peut juste arrêter de commettre des erreurs non provoquées, on pourrait gagner. Puis hier, quand ils ont pris la bonne avance, je me dis, bon, ben ça y est, là, les Bucs ont causé une surprise. Malheureusement, ils n'ont pas pu tenir le coup, mais vraiment toute une performance de la part de Russell Wilson, vraiment là. Les Broncos de Denver, ils ont défait les Browns de Cleveland. Rien ne va plus à Cleveland. Écoute, le jeu du match, pour moi, je ne sais pas si tu l'as vu, Lélie rapprocher les Broncos, Noah Fant, Lélie rapprocher recul, tu l'as vu, tu sais tout de suite de quoi je parle.
OK. Ouais.
Touché de 75 heures. Là-dessus, il y a trois plaqués qui ont été ratés du côté des joueurs des Browns. C'était vraiment pitoyable.
Ben, c'est ça qui arrive quand il y a une équipe qui joue au football contact avec une autre équipe qui joue au football, two flag ou two and touch.
Il pensait ça que c'était two and touch.
C'est vraiment ça. Puis, pourquoi il n'arrête pas de courir? Mais non, il faut plaquer le gars puis il faut le faire tomber pour que la bête siffle. C'est incroyable de laisser un joueur dans la NFL là, pas plaquer comme ça. Là, mais c'est pas mal le cirque là, à Cleveland.
Ben oui, ben, tu parles de cirque. Je ne sais pas si tu as vu après le match, il y a German White. Whitehead, un des trois joueurs qui a raté un plaqué sur le jeu. Là, il a attaqué quelqu'un, partisan sur Twitter. Il a même fait des menaces comme quoi qu'il allait le tuer. Les Browns ont vu ça, ils l'ont immédiatement libéré. Mm-hmm. Alors, le gars vient de perdre son emploi à cause de Twitter. Ouais. Ça n'en valait pas la peine, décidément. Mais non, mais comme tu dis, c'est vraiment un cirque. Bon, la semaine dernière, je ne sais pas si tu as vu, Baker Mayfield, il n'aimait pas les réponses, les questions d'un journaliste durant un point de presse après une séance d'entraînement. Il a décidé de mettre fin brutalement à son point de presse. Puis d'ailleurs, de Baker Mayfield, j'ai trouvé cette statistique-là. Il a maintenant une fiche de 2 victoires et 10 défaites lorsqu'il tente au moins 35 passes lors d'un match. 35 passes et plus tentées lors d'une rencontre, 2 et 10 s'affichent. Alors, puis pour continuer là, dans le cirque, là, il y a Odell Beckham qui était frustré après la rencontre. Odell Beckham et Jarvis Landry qui ont été avertis par la NFL à la mi-temps de changer leurs souliers parce qu'ils ne portaient pas des souliers réglementaires. Bref, on dirait que tout le monde fait qu'est-ce qu'on veut.
Exactement. Tout le monde se soucie de plein d'autres choses au-delà de ce qui se passe sur le terrain, puis la préparation, puis le match. En tant que tu commences à te soucier de quel soulier tu vas mettre, puis est-ce que c'est un soulier adéquat, légal, etc. Là, tu sais que ta tête n'est pas là. Mais c'est un peu ce que tu achètes avec OBJ. Quand tu amènes ce gars-là dans ton vestiaire, dans ta culture, des fois tu gagnes des fois des matchs avec ce gars-là, mais si tu gagnes à long terme, tu gagnes en dépit de ces gens-là.
C'est ça, on avait beaucoup critiqué les Giants, souviens-toi, lorsqu'on avait annoncé la transaction que New York échangeait à Beckham aux Browns. Les Giants s'est fait critiquer, le directeur général s'est fait critiquer, mais on n'échange pas un joueur du talent d'Odell Beckham sans raison. Là, c'est un exactement. Peu comme Antonio Brown. Mm-hmm. Il s'en est passé des choses à Pittsburgh qui ne se sont jamais rendues dans les médias. Une fois qu'il est arrivé au club, là, c'est comme « OK, là, je comprends pourquoi les Steelers voulaient s'en débarrasser à tout prix.
Ouais. »
C'est ça, c'est difficile de gagner avec des joueurs qui ont la tête à autre chose.
Puis des fois, qu'est-ce qu'on voit avec ces gars-là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, on n'en sait pas la totalité. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis qu'ils acceptent, puis qu'on tolère jusqu'à ce qu'on se dise on arrive
à cause de son grand talent.
À cause de son talent, exactement. Puis quand on se rend au bout de limite, on se dit on ne peut plus, là, puis on laisse quelqu'un d'autre prendre son pari.
Écoute, tout à l'heure, on parlait d'Adam Gase, ce qui va être one and done, une saison et être congédié à New York. Bon, je pense que c'est pas mal la même chose avec Freddie Kitchens du côté des Browns. L'année dernière, lorsqu'on a congédié Hugh Jackson, il avait une fiche de 2 victoires, 5 revers, 1 match nul. Les Browns sont 2-6. Donc la fiche est pire là, de Kitchens. Puis l'équipe est meilleure. Là. L'équipe est mieux.
C'est
plus talentueuse que l'année dernière.
Les joueurs sont là. Tu sais, Chubbs, Landry, OBJ, Baker. Des atouts là pour que les choses se passent mieux à Cleveland.
Oui, mais alors, ça se poursuit. Puis le calendrier, bon, il n'est pas nécessairement très facile, le calendrier restant des Browns. Alors, on va voir comment ça va se finir, mais ça va pas bien finir. Ça, j'en suis pas mal convaincu à Cleveland. Dernier match dont on n'a pas parlé, mettez aux prises les Chargers aux Packers. La surprise de la semaine, les Chargers qui ont donné une volée aux Packers. Une victoire de 26 à 11. Puis après le match, Aaron Rodgers a dit, écoute, je pense qu'on avait besoin de subir une raclée comme ça, parce que là, il y a certains joueurs, peut-être qu'on commençait dans l'équipe à avoir trop confiance, vu que tout va bien, on pensait peut-être qu'on est meilleur qu'on l'est. Alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé là, de ce résultat?
Ben c'est ça, c'est sûr, c'est la surprise de la semaine, si tu t'entendais pas ça. Finalement, les Chargers qui montent signe de vie là, avec Rivers, qu'on sentait, était-tu au bout du rouleau, c'était-tu fini pour lui? Puis finalement, Rivers joue bien. La défensive des Chargers joue extrêmement bien avec Bosa, Ingram, ils sont rendus au carrière très souvent et ont rendu la vie très difficile pour Aaron Rodgers. Il menait 19-0 à un moment donné.
Ouais.
Ça allait très mal là, pour Green Bay. Puis je pense que très rarement on a vu un Aaron Rodgers là, aussi dépourvu là, de ses capacités là, de faire ce qu'il fait absolument offensivement. Là. Donc ça commence par là que si tu retiens Aaron Rodgers à 161 verges là, d'attaque, là, d'après moi, là, il va être très frustré. Puis sûrement rapporter ces matchs-là.
Oui. Écoute, on va se laisser avec quelques nouvelles de la NFL. C'est toujours très occupé les lundis. Du côté des Eagles de Philadelphie, DeSean Jackson a dû être opéré. Il a une blessure là, aux abdominaux qui traîne, aux abdominaux au niveau de l'end. En fait, il prépare seulement un match. C'était le premier match de la saison. On ne l'a pas revu depuis. Mais là, il va devoir être opéré. Puis ça devrait mettre fin à sa saison 2019. Alors ça, c'est malheureux parce qu'on sait on n'a pas beaucoup de vitesse en position de receveur du côté des Eagles. Hein?
Oui, c'est ça. Puis j'avais noté ça aussi dans le match contre les Eagles, là, que tous les éléments étaient là pour mieux performer offensivement. T'sais, Jeffries était de retour, Jackson était de retour, Aguilar aussi était là, puis pas de spark, tu sais, avec Wentz puis tout ça. Puis peut-être que c'est ça qui explique que Jackson n'était pas autant utilisé, là, puis autant absent. Je pense qu'il y avait 5 verges. Il avait attrapé une passe pour 5 verges, je pense, la semaine dernière. Là,
Non. J'allais au sein de mon équipe de fantasy football. Je ne l'ai pas fait jouer, là. J'ai gardé sur le banc. Mais ça fait 10 semaines que je le gardais là. Puis je me disais, bon, finalement, il est vu au jeu. Mais non, c'est ça. Il n'était pas à 100% visiblement. Alors, sa saison qui est terminée. Du côté des Colts d'Indianapolis, eh bien, on demeure optimiste dans le cas de Jacoby Brissett, comme quoi qu'il pourrait jouer dimanche prochain. Il aurait souffert, il souffrirait plutôt d'une entorse à un genou. On parle à son MCL, dont le ligament à l'intérieur du genou. Quand je dis à l'intérieur du côté du genou, là, pour ceux qui ont déjà, qui se sont déjà blessés à ce ligament-là. Alors, on espère qu'il sera en uniforme la semaine prochaine du côté des Colts d'Indianapolis. Ben voilà, écoute, Danny, on a fait le tour. Merci d'être passé
merci
en studio.
Toujours un plaisir.
Maintenant, on va attendre pour voir quel sera le résultat de la demi-finale de l'Est du côté de la Ligue canadienne. Est-ce que la saison de rêve des Alouettes va se poursuivre? Ben, c'est ce qu'on souhaite. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Quart vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.